France Inter.
Aujourd'hui, domestication des fruits et légumes, la vraie histoire, racontée par
Benjamin Novak, maître de conférence en agronomie à Avet AgroSup.
France Inter, la terre au carré, Mathieu Vidard.
Il suffit de croquer dans une banane pour oublier quel est le résultat d'un long cheminement biologique et culturel. Lisse, fondante, sucrée, elle semble couler de source comme si elle avait toujours existé sous cette forme idéale. Pourtant, ses ancêtres sauvages racontent une toute autre histoire. Les bananiers originels portaient en effet des fruits hérissés de graines dures, grosses comme des billes, rendant la chair quasi immangeable. Rien de la douceur crémeuse que nous connaissons aujourd'hui. Alors comment ce fruit improbable est-il devenu l'un des plus populaires de la planète? Tout commence avec un accident génétique. Comme chez les humains, les bananiers sauvages sont diploïdes, deux jeux de chromosomes, l'un venant du père, l'autre de la mère. Mais il arrive que la nature se trompe et parfois un gamète, ces cellules destinées à la reproduction, emporte dans son bagage non pas un seul, mais deux exemplaires complets du génome. Lorsqu'un tel gamète fusionne avec un autre, le résultat est un organisme triploïde. Chez bien des espèces, cette anomalie se traduit par la stérilité, mais pour la banane, ce fut une bénédiction, disparition des graines et des billes dures, seulement une pulpe tendre et sucrée. Ces bananiers sans pépins, apparus spontanément il y a plusieurs millénaires en Asie du Sud-Est, furent aussitôt repérés par les populations locales. Incapables de se reproduire seuls, ils ne pouvaient survivre qu'à travers l'intervention humaine. Ainsi débuta leur domestication. Plutôt que de semer des graines, les hommes multiplièrent les bananiers par reproduction végétative en replantant des rejets issus des racines de la plante mère. De là, les bananes voyagèrent avec les migrations, gagnant l'Inde, l'Afrique puis les Amériques à la faveur des routes maritimes. Et cette histoire n'est pas unique, on la retrouve dans un très grand nombre de fruits et de légumes. Partout, les humains ont appris à guider la reproduction des plantes pour obtenir des végétaux comestibles plus agréables à consommer, adaptés aux goûts et aux usages de leur époque, mais au prix de l'abandon d'une part de diversité. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Benjamin Novak.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ce récit est tiré de votre ouvrage « Pourquoi les bananes n'ont pas de pépins ?» Autre récit donc de la domestication de nos fruits et légumes. Ça paraît aux éditions Duno. Qu'est-ce qui vous a donné envie au départ d'approfondir la question de l'origine de nos plantes cultivées ?
Je pense qu'il y a deux choses qui m'ont donné l'idée et surtout l'envie de creuser un peu plus cette histoire. C'est d'abord qu'on se rend compte qu'il y a pas mal d'événements aléatoires qui ont favorisé ou non une culture dans l'histoire. Donc on reviendra sans doute un peu dessus après. Et la deuxième chose, un peu plus générale, c'est de se rendre compte que parmi les centaines de milliers d'espèces de végétales qui peuvent exister, on va en cultiver, grosso modo, si on prend vraiment les principales, qu'une centaine. Mm-hmm. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est qu'on a seulement quatre cultures, donc le blé, le maïs, le riz, et plus récemment le soja qui a augmenté, qui est venu se joindre à nos trois céréales principales, qui occupe plus de la moitié des terres arables, c'est-à-dire si on laisse de côté un peu les prairies et qu'on prend vraiment les terres de grandes cultures. Donc se dire comment est-ce qu'on en est arrivé en fait à ce degré de spécialisation avec l'histoire de l'agriculture.
Alors ce qui est intéressant évidemment c'est de comprendre les mécanismes à l'œuvre dans le passage de ces plantes sauvages aux plantes cultivées. Est-ce que les indices d'ailleurs sont évidents pour comprendre ce que vous appelez les points de bascule finalement entre le sauvage et le cultivé ?
Alors, tout au début, il y a quand même les débuts de l'agriculture, il y a à peu près 12 000 ans, où est-ce qu'on va voir les agriculteurs, les tout premiers agriculteurs vont commencer à sélectionner des plantes comme ça dans la nature, et vont faire ce qu'on va appeler de la sélection basale, c'est-à-dire à chaque fois repérer un peu les plantes qui donnent le plus de grains, qui ont les fruits les plus gros, en les replantant, en espérant garder ces caractères-là l'année suivante. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, processus qui se passe dans des endroits différents de la Terre en même temps, donc sous des climats différents, sous des latitudes différentes, avec des plantes différentes, et pour autant, on a quand même un certain nombre de points communs qui vont apparaître dans les espèces cultivées, et c'est ces points communs qu'on va appeler le syndrome de domestication.
C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire le syndrome de domestication ?
Le syndrome de domestication, c'est en gros tous les traits qui sont à peu près communs à nos plantes cultivées, alors qu'ils ne sont pas forcément tous partagés, mais qu'on retrouve le plus fréquemment. Donc il y avait, comme j'avais commencé à dire, déjà des plus gros fruits par rapport aux plantes sauvages, un plus gros nombre de grains qui va être prévu. Donc ça, c'est plutôt des choses qui vont se faire de manière volontaire, où l'agriculteur va chercher à garder ces caractéristiques-là, mais on a aussi d'autres caractéristiques qui vont se faire de manière moins volontaire. Donc par exemple, pour qu'une graine puisse être ressemée l'année suivante, il faut qu'elle ait pu être récoltée. Donc pour pouvoir être récoltée, il faut qu'elle ait été gardée sur l'épi. Donc en gros, on va sélectionner des céréales qui vont avoir des épis solides, non déhissants, avec des rachis qui ne se cassent pas, et ainsi on garde les grains au moment de la récolte. Donc ça, c'est plutôt de manière inconsciente, mais ça rejoint un peu comme ça tout notre pool de syndrome de domestication. Donc là, c'est la perte de dispersion des graines. Ouais. Derrière, pour qu'on puisse les ressemer derrière.
Et alors, tous ces processus-là, alors chez nos ancêtres préhistoriques, puisque vous parlez du néolithique il y a 12 000 ans, un moment particulier évidemment où il y a une sédentarisation, donc où il y a la naissance de l'agriculture, ces processus-là, ils prennent du temps ou pas? Est-ce que nos ancêtres ont travaillé pour leurs descendants finalement, ou est-ce que dès leur vivant à eux, ils avaient déjà le fruit de leurs observations?
Oui, effectivement, c'est des processus qui font du temps. Et c'est là d'ailleurs l'une des premières réponses à se dire bah, pourquoi est-ce qu'on a un si peu nombre d'espèces cultivées, ouais. C'est que dès la première étape, forcément, bah, cette modification-là, elle ne s'est pas faite d'une récolte sur l'autre. C'est des mutations qui arrivent aléatoirement et qu'on va essayer de fixer par la suite au fil des récoltes qui vont se faire. Donc ça prend bien des millénaires avant d'arriver aux plantes qu'on connaît aujourd'hui comme ça.
Vous parliez donc des quatre espèces qui représentent la moitié des terres arables aujourd'hui, donc le blé, le maïs, le riz et le soja. Au sujet du blé, je vous propose d'écouter l'ethno-écologue Serge Bahuchet. C'était en 2015 à l'occasion d'une exposition sur la domestication des plantes au Musée de l'Homme à Paris.
Il y a 10 000 ans, l'homme domestique les plantes et les animaux. Comment à partir de plantes sauvages, et celle qui est en haut à droite, c'est un des ancêtres du blé, qui est donc une graminée toute simple avec un petit épi étroit. Et de cette plante-là, les hommes préhistoriques ont créé plusieurs espèces qui ont conduit aux variétés actuelles. Et ça a donné l'engrain, l'épeautre, le blé tendre qui sert à faire du pain, le blé dur qui sert à faire des pâtes alimentaires, etc. Et à partir de ces espèces-là, il a été créé au cours des siècles de très très nombreuses variétés de chaque sorte.
Alors je voulais vous faire réagir là-dessus, Benjamin Novak, parce que Serge Bahuchet, ce qu'il nous dit, c'est que finalement, à partir d'un épi de blé, on a plutôt créé de la diversité, alors que vous, vous montrez le contraire finalement dans ce processus de domestication.
Oui, alors c'est plutôt sur des phénomènes aussi qui vont arriver un peu plus tardivement dans l'histoire des cultures. Je trouve qu'on peut retenir aussi, c'est la différence qui va exister entre la plante sauvage, le petit épi de graminée qui va ensuite donner les différentes espèces. Et là, on a déjà une différence de morphologie qui va se faire. Mais encore, cette différence-là est encore plus différente chez le maïs, où est-ce qu'on va passer de la théosinte au maïs et avoir des plantes qui vont être radicalement différentes. Par exemple, la théosinte, on était très ramifié avec plusieurs épis qui allaient se faire, à la même manière que le blé, alors qu'on est arrivé sur le blé qui va avoir une seule tige, un seul épi. Donc là, c'est de la dominance apicale, un autre des marqueurs de la domestication, par exemple.
Mais ce qu'on observe aujourd'hui, quand même, en règle générale, c'est une relative faiblesse de la diversité, précisément, de nos espèces cultivées?
Alors, ça dépend de quoi on parle. On pourrait arguer de dire qu'il y a plein de variétés différentes qui vont exister chez les sélectionneurs, par exemple. Ça peut aussi être mis en question par le fait que souvent, la plupart de ces variétés partagent des géniteurs communs. Mmh. Donc dans la plupart de nos variétés élites, en fait, c'est des croisements souvent entre des géniteurs qu'on a déjà. C'était plutôt généralement, je voulais parler sur le base de la diversité, c'était dans le nombre d'espèces qu'on va avoir, ou notamment dans les épisodes plus tardifs, on a quand même certaines espèces qui ont été fortement sélectionnées, comme le cacao, le sucre et d'autres au moment de la colonisation, ou un peu plus tard, comme le soja, et qui occupe des places qu'elle n'avait pas du tout avant.
On y reviendra, on abordera l'exemple du cacao en particulier. Pour revenir sur l'exemple des bananes, parce que c'est quand même le titre de votre livre, pourquoi les bananes n'ont pas de pépins, ce qu'on consomme aujourd'hui, ça n'a donc rien à voir avec le fruit d'origine?
Alors, les bananiers sauvages existent toujours dans plusieurs coins du monde, mais c'est vrai que là aussi, on peut parler de la différence entre une diversité en nombre d'espèces ou en nombre de variétés qui peuvent exister, qui peuvent être très importantes, même pour la banane, où parfois on cultive soit des bananes sauvages, soit des variétés qui se rapprochent plus. Ouais. Mais dans les variétés qui dominent à l'échelle mondiale, en général, il n'y en a qu'une seule. Avant la Cavendish, c'était la banane Gros Michel. Et du fait du processus que vous avez bien décrit au préalable, vu qu'on n'a plus de graines, on fait de la reproduction végétative, donc toutes nos plantations de bananes, c'est des clones. Donc, couplé au fait qu'on va planter que la même variété.
Ouais.
Et que toutes ces plantations, c'est des clones, eh ben, ça leur fait une forte susceptibilité.
Donc ça, c'est un danger. En tout cas, c'est une prise de risque énorme. Et d'ailleurs, ça a déjà été, ouais, la banane a déjà incarné en fait, cette prise de risque.
Et c'est pour ça que la courbe Michel, d'ailleurs, a disparu dans les années 40, tout à fait.
Qu'est-ce qui s'est passé, alors ?
Eh ben, c'est un champignon, donc une fusariose qui est arrivée sur la banane, donc qui lui a créé une maladie fongique qui a décimé les plantations de bananes qui étaient majoritairement en Amérique centrale, ouais, là.
Donc les producteurs ont dû la remplacer.
Et c'est là qu'on s'est orienté plutôt vers la Cavendish, et la quasi-totalité des bananes qu'on mange, au moins dans l'hémisphère nord actuellement, sont les, ouais, bananes Cavendish.
Donc on a refait un peu le même schéma. C'est ça, exactement. On prend les mêmes risques, finalement.
Et d'ailleurs, c'est le même problème qui arrive actuellement, parce qu'on a une nouvelle souche de cette fusariose qui est en train d'arriver.
Ouais.
Donc, une variante de notre ancienne maladie du Panama, et qui est en train de décimer actuellement les plantations de Cavendish. Donc là aussi, il va peut-être falloir envisager d'avoir une nouvelle variété qui va, ouais, arriver pour la suite.
Mais pourquoi on n'en crée pas plusieurs, alors ? C'est vraiment juste une question, finalement, de rentabilité, ou...
Alors, je pense qu'il y a une question de facilité, de rentabilité, et aussi peut-être d'habitude pour les consommateurs, de se dire, bah, c'est la banane dont on a l'habitude. Mmh. Et on va pouvoir la vendre à grande échelle comme ça. Avec la spécificité pour la banane aussi, c'est qu'il faut qu'on ait des variétés qui vont bien résister au transport entre le moment où on va la cueillir et le moment où est-ce qu'elles vont se retrouver sur, ouais, les étals derrière.
Et tout a été étudié pour cela, évidemment. Exactement. On va écouter Patrick Cressat, Reynaud. Il travaillait à l'INRA en 1985 et il évoquait à cette époque-là les abricots, autre exemple.
Beaucoup de variétés d'abricots se prêtent mal à la conserve, comme celle-ci, qui est cultivée dans la région du Gard, qui est la variété Atif Colomère, alors qu'on a ici l'exemple d'une variété grecque, qui est le Bébéco, dont la chair est extrêmement solide. Malheureusement, le goût n'est pas parfait. Notre travail consiste donc à essayer, par des hybridations, et puis un travail comme celui-ci, qui simule en fait ce qui se fait dans l'industrie, de trouver des variétés qui puissent satisfaire à la fois les conserveurs et le consommateur, c'est-à-dire à la fois la fermeté et l'apparence, mais également la qualité gustative.
Voilà, au sujet de l'abricot en 1985. Le rôle des agronomes comme vous, Benjamin Novak, c'est de quoi justement ? C'est de rechercher sans cesse de nouvelles espèces ? Comment ça se passe ?
Alors, nous, en tant qu'agronomes, on n'est pas des sélectionneurs, c'est plutôt du côté des généticiens qu'on va avoir le travail qui va se faire sur les espèces. Du point de vue de la sélection, les agronomes vont plutôt s'intéresser à l'adéquation entre le milieu, les pratiques et les espèces qu'on va cultiver. Donc choisir en gros quelle est soit l'espèce, soit la variété qu'on va pouvoir mettre dans quelles conditions, ce qu'on appelle dans le jargon pédoclimatique, et quelles vont être les pratiques les mieux adaptées derrière. Donc c'est un peu l'idée de s'adapter au local, ce qui est un peu l'inverse de ce qu'on va faire quand on va cultiver une variété, comme on disait, comme la Cavendish, sur des grandes, ouais, surfaces.
Mais c'est quoi les motivations au départ dans cette volonté de domestiquer les plantes ? Alors chez nos ancêtres par exemple, qui manipulaient les gènes sans le savoir, mais aussi aujourd'hui finalement, est-ce que les buts sont les mêmes ?
Alors je pense que le but c'est toujours le même depuis le départ, c'est d'aller produire selon ce que l'on consomme plutôt que de manger ce que l'on cueille. Donc de réussir d'avoir une diversité d'espèces qui va nous permettre de faire ça, qui va produire suffisamment et qui va pouvoir résister aux maladies ou aux accidents climatiques qui vont arriver.
Et de se faciliter aussi la vie, hein. C'est ce que vous expliquiez tout à l'heure en nous disant que finalement on a souvent cherché à augmenter la taille des espèces cultivées, parce qu'évidemment c'est plus facile par exemple de cultiver un gros épi de maïs que des petits.
Exactement, un gros épi et qu'il n'ait pas de ramifications, qu'on puisse aller récupérer en haut. Et exactement pareil pour les fruits, aussi d'avoir des gros fruits qu'on va pouvoir récupérer plus facilement là-dessus.
Ouais. Ouais. Benjamin Novak, on va se retrouver dans un instant pour ce récit donc, sur la domestication des plantes cultivées. Et puis nous attendons bien sûr vos messages, vos réactions et vos questions sur l'application Radio France.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
On va croiser ce melon d'origine asiatique à la longue conservation avec ce melon charentais au bon goût pour essayer de combiner le bon goût et la longue conservation dans un seul et même fruit.
Maintenant, le melon va être découpé, broyé et disséqué. L'analyse va porter sur les arômes et les saveurs, mais aussi sur la résistance aux maladies du melon et même des hommes.
Nous cherchons également à étudier ces substances sous l'angle de la nutrition, c'est-à-dire les effets bénéfiques de ces substances sur la santé, en particulier dans la prévention de certaines pathologies.
1997, encore un document autour de l'INRA. C'était à Avignon, Benjamin Novak, vous qui êtes maître de conférence en agronomie, et qui publiait « Pourquoi les bananes n'ont pas de pépins ?» C'est aux éditions d'Uno, ouvrage dans lequel vous ne parlez pas que des bananes, mais aussi, par exemple, des melons. Une histoire intéressante, parce que le melon, comme la tomate d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais qui a souffert, d'ailleurs j'ai dit, c'est un fruit ou un légume ?
Alors, d'un point de vue botanique, les deux sont des fruits.
Ouais, on va aller voir. C'est ça. Et la tomate, comme le melon, donc, qui ont souffert d'une mauvaise réputation. Alors, pourquoi le melon, justement, a souffert d'une mauvaise réputation ?
Alors ça, c'est parti d'un autre critère du syndrome de domestication, qui est l'amélioration des qualités organoleptiques.
Ouais.
Alors, au départ, le melon, il était assez amer, comme la plupart des fruits de la famille des cucurbitacées, dont il fait partie. Donc, un goût plutôt fade, assez peu agréable à manger. Donc ça, c'est pour les melons sauvages qu'on trouve en Afrique et en Asie. Et suite à la domestication, eh ben, petit à petit, on a essayé d'améliorer la teneur en sucre dans le melon pour qu'il soit de plus en plus agréable à manger. Donc, ce n'était pas encore tout à fait le cas chez les Romains, parce que visiblement, il était plutôt consommé en salade ou avec du poivre ou du vinaigre pour l'assaisonner. Mais pour revenir au Charentais, là, qui était cité dans l'exemple, après des millénaires de sélection, on a réussi à avoir ces fruits qui étaient vraiment le goût sucré. Par contre, je pense que ça peut aussi avoir une image du melon qui a peut-être été associée à la tentation ou au désir comme ça, et qui lui a donné un peu une mauvaise réputation. Parce qu'on a, si on regarde dans l'histoire, on a plusieurs décès qui auraient été attribués à de la consommation de melon.
Ah oui, et notamment, d'où la mauvaise réputation. Alors.
Ouais, et notamment chez des personnes importantes, donc notamment deux empereurs, ou encore même un pape, Paul II, qui lui-même, dans son certificat de décès, s'est dit qu'il est mort d'une indigestion de melon.
Ah oui, donc ça marque l'histoire quand même, des choses comme ça.
Voilà. Alors que, a priori, on n'a pas vraiment de composés toxiques dans le melon. S'il peut être contaminé, c'est plutôt par des bactéries qui sont présentes sur la parcelle où il est cultivé, qui sont amenées par du fumier ou encore par des eaux d'irrigation, qui peuvent se retrouver sur la peau et ensuite contaminer la chair. Or, c'est des bactéries qui sont assez bénigne la plupart du temps, mais si on est un peu plus âgé, un peu plus faible, un peu plus en mauvaise condition physique, bah, ça peut avoir des conséquences plus graves peut-être.
Et alors, il est consommé depuis longtemps le melon là ? Vous disiez, les Romains déjà en mangeaient ?
Ah oui, c'était même avant, on est plutôt sur du 6000 ans, 7000 ans pour les premières domestications.
Et les formes sauvages alors, de melon, elles ressemblaient à quoi exactement ?
Bon, on était toujours pareil, c'était avec des fruits plus petits, comme on disait, avant qu'ils grossissent, et des goûts
plus fades,
plus fades, plus amers, moins agréables à cultiver, à manger. Pardon.
Donc cette douceur, ce parfum caractéristique là, qu'on connaît bien du melon moderne, c'est le résultat vraiment de milliers d'années de sélection en réalité, c'est ça hein.
Oui,
c'est
exactement.
C'est un processus qui prend beaucoup de temps.
Et d'un côté, on a cherché à augmenter les qualités organoleptiques. Et de l'autre côté, on a aussi enlevé des molécules toxiques, qui sont les systèmes de défense des plantes, en gros, notamment contre les herbivores. On ne va pas forcément tous les détailler, mais on a ça qui existait. Et petit à petit, avec la domestication, on essaye d'enlever ces molécules qui peuvent gêner à la consommation.
Alors, dans votre livre, vous évoquez l'influence des migrations humaines, des échanges commerciaux, et puis également des conflits sur la domestication des plantes. Tout ça, justement, a participé à la dispersion rapide des espèces cultivées ?
Oui, bien sûr. Et je dirais même plus qu'à l'inverse, c'est aussi la volonté d'avoir des nouvelles cultures et de s'approvisionner qui a été à l'origine des voies commerciales.
Ouais.
Par exemple, du premier voyage de Christophe Colomb dans lequel il va découvrir l'Amérique, c'est pour aller chercher des épices, par exemple. On a encore aussi pas mal de plantes qui ont transité par les routes de la soie. Donc à l'époque, c'est plutôt des produits bruts qu'on essaye de faire transiter, pas des produits bruts, mais des produits transformés, c'est-à-dire pas des graines, pas des plants, pour garder le monopole. Donc c'est par exemple le thé qui est ainsi arrivé en Europe. Donc quand il est arrivé, c'est d'ailleurs assez drôle parce qu'on le voit dans le langage encore actuel, quand le thé est arrivé par l'intérieur des terres, par les routes de la soie qui est arrivé dans les pays de l'Est, donc comme la Russie, et bien là il est plutôt dénommé d'un dérivé de tcha, comme il est appelé en mandarin dans le centre de la Chine, alors qu'à l'inverse, quand il arrivait dans les ports, comme nous, c'est plutôt appelé thé, le dérivé du mot chinois qui était parlé dans les ports à l'époque.
Donc,
on retrouve cette trace.
Le nom, en fait, témoigne de tous ces voyages.
Voilà, du trajet qu'a fait la plante pour arriver jusqu'à chez nous.
La diffusion des plantes, c'est lié à l'histoire des premières civilisations. Exemple avec le maïs en Amérique centrale, avec les populations autochtones qui ont favorisé certains traits, justement, des plantes d'origine. C'est ce qu'on disait. Un seul épi, c'est évidemment beaucoup plus facile à récolter qu'une multitude de petits épis. Le maïs qui est présent sur tous les continents maintenant, aujourd'hui.
Oui, maintenant avec des usages différents. Mais c'est vrai que pour l'Amérique, d'ailleurs, le maïs est un exemple intéressant parce qu'on a parlé de la façon dont les hommes avaient modélisé les cultures, entre guillemets. Mais l'inverse est aussi vrai. Les plantes ont aussi fait les civilisations. On sait que le maïs a été un élément très important de l'essor de la civilisation maya, qui ont pu le cultiver comme ça pour grandir. Ils avaient même, pour eux, un dieu qui était représenté en forme d'épi de maïs. Et ils essayaient de reproduire cette forme sur la crâne des nouveau-nés en serrant le crâne à l'époque où il est encore ductile dans des planchettes en bois pour reprendre un peu la forme allongée de l'épi.
Mon Dieu.
Qui était un... Mais pour eux, c'était un synonyme d'appartenance à l'élite chez les, ouais. chez les Mayas. Mais à l'inverse, c'est aussi la culture du Maya qui aurait précipité le déclin et l'effondrement de la civilisation avec une surculture de cette plante. On a trop déboisé, ça a créé des sécheresses, on a mis le maïs dans des pentes et ça a créé de l'érosion, et donc ainsi des famines qui seraient arrivées notamment.
Donc ça veut dire que la nature des plantes a influencé de façon assez profonde les civilisations, leur structure. Vous montrez l'exemple du riz, par exemple, aussi en Chine.
Oui, c'est la théorie, la thèse d'un chercheur américain qu'il a pu tester d'ailleurs empiriquement. Mais en gros, pour lui, les villages chinois qui sont développés sur la culture du riz ont un héritage derrière qui est plus collectif, moins individualiste que les villages qui sont développés sur la culture du blé.
Pourquoi ?
Donc, tout simplement parce que, historiquement, la culture du riz, ouais. nécessitait plus de main-d'œuvre pour aller désherber, pour s'occuper de la culture, ou encore une gestion commune de l'irrigation pour aller gérer l'ennoiement des rizières. Donc tout ça, ça crée un peu un héritage. Même quand les techniques agricoles évoluent, derrière, ça crée un héritage qui se revoit encore dans la population actuelle des villages.
La création des empires coloniaux donc, a fait exploser les cultures, fait voyager les plantes, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Et puis ensuite, c'est la colonisation qui a accéléré beaucoup d'ailleurs ces transferts de plantes entre les continents.
Oui, exactement. Il y a eu deux choses à ce moment-là. C'est que les grandes puissances européennes ont commencé à avoir de grands territoires qu'ils vont pouvoir exploiter, donc à la fois le territoire, et après, il y a la mise en place de l'esclavage qui fait du travail forcé pour aller travailler dans ces plantations. Et puis, on va chercher à s'approprier les cultures qu'on n'avait pas auparavant.
Oui.
Donc, vous savez, le thé avant, il était sur la route de la soie. Les Anglais, quand ils ont cherché à avoir du thé, ils ont missionné un botanique, donc Robert Fortune, pour qu'il aille s'infiltrer dans les plantations de thé en Chine et renvoyer derrière des premiers plants en Inde pour qu'ils puissent commencer derrière la culture dans les colonies. On a à peu près la même histoire d'ailleurs qui s'est fait pour le café, qui serait sorti de la péninsule arabique grâce à des marchands hollandais qui ont réussi à sortir des grains encore viables
ouais.
pour pouvoir les planter à l'extérieur.
Vous parlez du début du plantationocène.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Exactement, qui a été entre autres créé par Anat Singh que vous aviez reçu récemment, je crois, derrière.
Absolument, oui.
C'est-à-dire que c'était vraiment cette dynamique des grandes plantations qui était à l'époque le moteur de l'évolution et qui ont des impacts qu'on retrouve encore actuellement. C'est peut-être pour revenir un peu sur ce que vous dites aussi, pourquoi est-ce qu'on a perdu de la diversité avec ce qu'on a fait ? C'est quand on a fait voyager nos plantes, prenons l'exemple du café qui est originaire d'Afrique. Donc les Hollandais ont réussi à le faire sortir une première fois et après par différents coups de billard, il est arrivé en Amérique du Sud qui est maintenant le principal producteur mondial de café.
Ouais.
Mais pour débuter en Amérique du Sud, c'est que quelques plants qui ont voyagé à chaque fois. Donc, par rapport à toute la grande diversité génétique qu'on avait dans son continent d'origine, les plantations sud-américaines, elles ont commencé par rapport à un nombre réduit d'individus. C'est ce qu'on appelle un goulot d'entrianglement génétique. Et ça, en fait, cette baisse de diversité fait qu'on va être plus sensible aux maladies aussi, comme on l'a dit, par exemple, pour l'exemple de la banane.
Et c'est l'inverse du cacao, hein, c'est ça ? Qui était largement produit en Amérique du Sud, c'est ça, et qui maintenant est plutôt produit en Afrique.
Le cacao est originaire de la forêt amazonienne, lui, tout à fait. Et c'est les Portugais qui l'ont fait voyager en Afrique. Au moment, tout simplement, où ils ont perdu le Brésil, ils ont voulu garder un approvisionnement en cacao. Mmh. Et donc, ils ont fait voyager les plantations de cacao sur l'île de Trinidad et Tobago, d'abord. Et plus généralement, après, c'est toute la côte d'Afrique de l'Ouest qui, aujourd'hui, qui produit plus de la moitié du cacao mondial.
Benjamin Novak, les guerres et les conflits géopolitiques influencent la géographie agricole. Et vous citez l'exemple de la betterave. Exemple évidemment intéressant parce que non seulement au cœur de l'histoire mais aussi de l'actualité aujourd'hui. Vous racontez d'abord comment la défaite de Trafalgar, le 21 octobre 1805 dans le sud de l'Espagne, a entraîné l'importation de produits depuis les colonies comme la betterave. Pourquoi ?
Alors, c'est que suite à la défaite de Trafalgar, en fait, toute la flotte napoléonienne a plus ou moins été détruite par la flotte anglaise. J'ai vu qu'on fêtait les 200 ans, je crois, d'ailleurs, de la bataille, peut-être il n'y a pas longtemps. Mais bref, à partir de ce moment-là, Napoléon a quand même cherché à affaiblir l'Angleterre. Le problème, c'est qu'il ne pouvait plus rivaliser sur les mers. Donc l'idée a été d'imposer un blocus continental. Et donc, en fait, les Anglais ne pouvaient plus commercer avec l'Europe.
Mmh.
On était trop faibles pour pouvoir aller bloquer les Anglais sur leur île. Par contre, on leur interdisait d'arriver en Europe. Par contre, le contre-coup qu'on a eu avec ça, c'est que le sucre qui provenait de la canne et qui provenait des colonies n'a plus pu arriver.
Donc, des pénuries sont apparues.
Des pénuries sont apparues, que ce soit du sucre, mais aussi d'autres produits qui venaient des colonies.
Et le cas du sucre est intéressant.
Voilà. pour remédier un peu à ce problème sur le sucre, Napoléon a essayé de développer le sucre qui vient de la betterave, donc il a subventionné les recherches pour extraire le sucre de la betterave,
ouais.
Et il a essayé aussi de développer la culture en France. J'ai bien essayé parce que ça n'a pas été une réussite immédiatement, bon, pour différentes raisons que j'explique dans le livre, mais il a quand même initié le mouvement qui fait qu'on a de la betterave à sucre actuellement.
Et donc aujourd'hui, la betterave a réussi à s'imposer, c'est ça ? Après donc de longues périodes, mais en tout cas au nord de la France en particulier, parce que le sol est précisément, et le climat sont bien adaptés à cette plante.
Oui, c'est ça. Je crois qu'initialement, l'idée de Napoléon était de le mettre sur la France entière,
ouais.
En se basant notamment sur la culture du tabac, en disant qu'il aurait à peu près les mêmes besoins. Mais la spécificité de la betterave est qu'elle va demander plus d'eau, elle va aussi demander des sols plus profonds et sans cailloux, pour que la betterave puisse bien grossir et ne pas être gênée. Donc plus elle va grossir, plus elle va pouvoir de sucre derrière. Donc au final, on a plutôt une concentration derrière. Cette concentration s'explique aussi, c'est quand même un processus industriel qui est relativement lourd,
ouais.
À faire, l'extraction du sucre. Donc on a besoin d'avoir, c'était les fabriques à l'époque, ce qu'on appelait les sucreries maintenant, qui sont relativement proches pour éviter le temps de transport qui va être perdu comme ça.
Et d'où le recours aussi à des produits phytosanitaires qui ont été au cœur de l'actualité et de la loi du plan très récemment. On va en parler, Benjamin Novak, dans un instant, avec cette histoire de la domestication des plantes cultivées. Et vos questions, vos messages, vos notes vocales sur l'application Radio France.
France Inter. La Terre au carré.
Benjamin Novak, maître de conférence en agronomie et auteur de ce livre « Pourquoi les bananes n'ont pas de pépins ?» Autre récit de la domestication de nos fruits et légumes. C'est aux éditions Dunod. Vous expliquez dans ce livre à quel point ces différentes domestications ont influencé la construction du monde agricole moderne. Donc la colonisation a été à l'origine de systèmes dans lesquels nous vivons encore aujourd'hui.
Oui, enfin qui créent en tout cas les susceptibilités qu'on peut avoir dans nos plantes. Elles ont commencé à partir d'un nombre réduit de plantes. Mmh. Et également, on ne les a pas toujours mis dans les zones où est-ce qu'elles étaient les plus favorables pour elles.
Oui.
Donc, entre autres, avec le réchauffement climatique qui arrive maintenant, on voit que les plantations de café au Brésil sont assez menacées, par exemple.
Pour revenir sur la betterave, puisqu'on en parlait tout à l'heure, donc on voit qu'il y a des filières agricoles qui sont très spécialisées aujourd'hui, avec des cultures qui sont concentrées donc dans les mêmes régions, ce qui est le cas vraiment pour la betterave. C'est pour cette raison que c'est difficile de se passer de produits phytosanitaires comme l'acétamipride, par exemple, qui fait tellement parler avec la loi du plomb.
Oui, alors c'est sûr que autant au 19e siècle, on a eu un retour sur le concept phytosanitaire, une volonté de souveraineté alimentaire avec la mise en place de droits de douane.
Oui.
Par exemple, les corn laws en Angleterre pour limiter les importations de céréales qui venaient des Amériques. Un peu des équivalents en France aussi. Mais après, au 20e siècle, on est complètement parti dans l'idée de la spécialisation. C'est en gros les idées de David Ricardo qui ont gagné derrière. Et c'est vraiment l'idée de se dire, on va avoir des systèmes agricoles qui sont plutôt spécialisés. Et c'est sûr que c'est un héritage qui est très difficile à contrecarrer. Et à faire des retours en arrière. Il y a un concept qui s'appelle le concept de verrouillage sociotechnique, c'est-à-dire que pour qu'un agriculteur puisse changer ses pratiques, il faudrait aussi que les autres maillons de la chaîne changent aussi à côté. Mais du fait de ces interrelations, ça fait qu'on est un peu bloqué dans une situation qui, même si elle n'est pas optimale, on est un peu coincé à cet endroit-là.
Ouais. Donc cette tendance à la spécialisation des systèmes agricoles, évidemment, c'est tout bénéfice pour le rendement, mais ça représente aussi des dangers et des limites dont il faudrait aujourd'hui prendre conscience.
Oui, en tout cas, pour revenir sur ce qui se disait, sur les débats qu'il y avait justement à l'époque en Angleterre, quand il y avait les droits de douane qui ont été mis en place, l'idée de David Ricardo, c'est de se dire, si on est spécialisé, si chaque pays spécialise dans une production, par exemple, donc son exemple c'était le vin pour le Portugal, le drap pour l'Angleterre,
ouais.
Et économiquement, ce sera la situation qui est la mieux.
Mm-hmm.
Par contre, ce qui est vrai en économie théorique n'est pas forcément vrai en agronomie. Parce que nous, on a besoin d'une certaine diversité des cultures pour pouvoir allonger les rotations, pour pouvoir faire en sorte que la culture ne revienne pas trop souvent et qu'on ait une diversité à la fois à l'échelle de la parcelle et à la fois à l'échelle du paysage. Donc cette tendance à la spécialisation nous crée aussi une dépendance aux produits phytosanitaires.
Alors, vous citez même des exemples assez étonnants de ce degré de spécialisation sur les noix de cajou, par exemple, qui subissent tout un tas d'étapes.
Oui, c'est un peu le summum de la spécialisation qu'on peut avoir là, je trouve. On a des noix de cajou qui sont produites dans un grand nombre de pays africains,
mm-hmm.
Mais il faut savoir que la coque qu'on a autour de la noix est en fait assez caustique, assez irritante. Elles sont difficiles à décortiquer. Donc une fois récoltées, les noix brutes sont envoyées en Inde, qui est historiquement le pays du décortiquage, ou au Vietnam, qui a investi récemment dans des grandes unités pour pouvoir décortiquer. Et ensuite, c'est seulement les noix de cajou décortiquées qu'on va aller envoyer en Europe ou en Amérique.
C'est ça, donc un bilan carbone catastrophique.
Oui, et puis surtout, ça pose des questions en termes de résilience derrière. Parce que forcément, quand on a des systèmes qui sont aussi spécialisés, aussi imbriqués, et ben forcément, quand un maillon de la chaîne va pouvoir poser problème, tout peut s'effondrer.
Ouais. Benjamin Novak, une invention qui a eu un impact très important, c'est l'invention des engrais azotés. Fritz Haber, c'est au début du XXe siècle, qui d'ailleurs a inventé ces engrais dans quel contexte? Parce que c'est intéressant de se rappeler l'histoire aussi.
Oui, exactement. Alors, l'invention donc, qu'on appelle le procédé Haber-Bosch, parce qu'inventé par Fritz Haber et industrialisé après par Karl Bosch, donc c'est pouvoir récupérer de l'azote dans l'atmosphère pour en faire des engrais azotés. Mais à l'époque, il le fait au début du XXe siècle. Et c'est surtout ça va être beaucoup utilisé d'ailleurs pendant la Première Guerre mondiale, parce que l'azote sert aussi à faire des explosifs. Et à l'époque, l'Allemagne ne peut plus s'approvisionner en guano d'Amérique du Sud, qui était un des fournisseurs d'azote, parce qu'on a le blocus pour essayer de mettre fin à la guerre. Donc, l'invention d'Haber, en plus des gaz de combat qu'il a mis au point aussi, ont entraîné la prolongation de la guerre. Mais derrière, donc surtout à partir des subventions de la PAC qui vont arriver, ça a eu un fort impact sur la spécialisation, parce que jusque-là, la fertilisation des cultures, ça se faisait principalement par les fumiers ou par ce guano dont je parlais. Mais à partir du moment où on a des engrais qui nous permettent de se passer des fumiers animaux, on va avoir une forte spécialisation comme ça des régions qui vont se faire. Typiquement la Bretagne, qui va produire les animaux, et la Beauce qui va aller faire
les cultures. C'est ça, c'est-à-dire qu'on sépare les productions animales et végétales, en fait, à partir de ce moment-là.
Ça nous fait encore un cran de plus de spécialisation. Ouais.
Puisque vous parlez de la PAC, écoutons cette archive de 1962 avec la voix d'un homme, René Charpentier. À l'époque, il est député de la Marne et rapporteur de la Commission de l'agriculture de l'Assemblée européenne sur la politique agricole commune.
Différentes propositions ont été débattues à l'Assemblée pour mettre en route une politique agricole commune. Il est un fait que les échanges de produits industriels sont développés spectaculairement, tandis que ceux des produits agricoles ont été à un rythme lent. Différentes suggestions complémentaires ont été faites pour éviter les causes anormales de distorsion des produits agricoles. Je pense que si ces mesures rentrent en application rapidement, nous pourrons enfin avoir les premiers pas d'une vraie politique agricole commune.
Voilà, 1962, Benjamin Novak. Ça, c'est une autre grande étape que vous décrivez dans votre ouvrage, la mise en place de la PAC pour, renforcer la spécialisation.
Oui, pour moi, ça se fait en deux volets. Il y a toutes les subventions et toutes les mesures, comme le remembrement qui a été mis en place, qui incite plutôt à avoir des grosses fermes spécialisées dans une seule production. Donc ça, c'est sûr qu'on va influencer sur la spécialisation, avec l'achat des intrants aussi, qui peuvent être achetés grâce aux subventions. Mais il y a aussi un autre volet qu'on connaît moins, c'est qu'en contrepartie, pour pouvoir accepter la mise en place de la PAC, les Américains ont obtenu la suppression des droits de douane pour le soja. Et c'est encore là une spécialisation à un niveau supplémentaire. On va avoir le soja, qui est l'aliment pour les troupeaux, qui va être produit par les Américains et ensuite derrière par l'Amérique du Sud, maintenant plutôt le Brésil qui est en train de prendre le pas sur les Américains, et exporté derrière en Europe, en Asie. Donc d'un côté, on a les engrais qui se permettent de passer des fumiers animaux, et de l'autre côté, on a les aliments qui sont même importés sur de très très grandes distances.
C'est quoi la morale de l'histoire finalement? Parce que cette histoire de la domestication des fruits et légumes, elle nous raconte aussi quelque chose de très contemporain, de très moderne.
Je pense surtout, si on prend les exemples récents, c'est qu'on voit l'importance des choix politiques qui ont été faits dans la structuration de nos filières. On a parlé par exemple de tous les moyens mis par Napoléon pour essayer de développer une filière de betteraves. Il a vraiment mis des moyens très importants pour essayer d'y arriver. Ou encore de toute l'influence qu'on a eu dans la PAC. Et dans l'extrait que vous montrez très bien, la PAC était faite pour moderniser, pour augmenter la productivité et être capable d'exporter sur les marchés. Donc, les systèmes agricoles, on peut leur faire entre guillemets un peu ce qu'on veut, mais il faut avoir des objectifs assez clairs sur ce qu'on veut en faire.
Et aujourd'hui, alors, qu'est-ce qu'il faudra en faire à votre
avis ? On revient sur l'exemple de la betterave, on a des objectifs assez contradictoires, je trouve, où on s'est donné un objectif commun avec Ecophyto d'essayer de diminuer les produits phytosanitaires. Mais dans le même temps, on va avoir des mesures qui vont être, par exemple, de supprimer les quotas de betterave, comme ça arrivait en 2017, ce qui incite plutôt à de la productivité dans ce cas-là. Ou encore, la dernière mesure qui passe dans la loi d'orientation agricole, de se dire qu'on ne supprimera pas de nouveaux pesticides si on n'a pas de solution qui soit au moins aussi efficace. Mais ce qu'on essaye de faire avec la transition agroécologique, c'est pas de remplacer une molécule par une autre, c'est bien d'aller vers la reconception de ces systèmes pour essayer de s'en passer. C'est pas essayer de trouver une autre molécule qui sera tout aussi efficace.
Benjamin Nomac, on passe aux questions. Aux questions et aux messages vocaux, écoutons la voix de Gilles.
Bonjour Nathéro Carré. Pourquoi est-ce si difficile de trouver en France une variété de banane qui s'appelle la banane pomme? C'est une banane acidulée qui s'appelle ainsi parce qu'elle rappelle le goût de la pomme cuite. Je vous remercie.
Benjamin Novak, qu'est-ce que vous aviez entendu parler de la banane pomme?
Non, je dois avouer que j'en avais pas entendu parler, mais je pense qu'une partie de la réponse vient dans ce qu'on avait dit un peu dans l'émission, pour dire qu'on a vraiment une tendance à la standardisation de la banane. D'ailleurs, toute l'histoire des développements des plantations américaines mériterait un livre entier avec ce qui s'est fait là-bas. Et d'autre part, là, pour des bananes qui vont être originaires d'Asie, c'est sûr que c'est là-bas qu'on a la plus grande diversité qui existe encore, tout simplement parce que c'est la zone d'origine de cette culture, l'Asie du Sud-Est.
C'est ce que nous dit Sylvie dans un autre message. En Asie, cet hiver, on était surpris de découvrir plein de bananes différentes avec des pépins, en effet. Un grand regret de ne pas les retrouver sur notre continent, car cette diversité est vraiment intéressante en goût et en taille.
Oui, tout à fait. C'est sûr qu'en général, plus on est proche de cette... du foyer de domestication, plus on va retrouver de la diversité comme ça. Mmh. Et c'est d'ailleurs un peu des leviers qui sont utilisés aujourd'hui pour essayer de lutter contre les épidémies dont on a parlé, de trouver un peu des variétés sauvages et essayer de les croiser avec nos variétés modernes pour ramener un peu de diversité ou des gènes de résistance qui existent dans les variétés originelles.
Johan aimerait savoir s'il existe aujourd'hui de nouvelles espèces que l'on cherche à mettre en culture en les sélectionnant pour les rendre intéressantes pour notre alimentation.
Alors, je dirais que ce n'est pas forcément des nouvelles espèces dont on part de rien, entre guillemets. Par contre, il y a toute une tendance qui est quand même d'essayer de redévelopper des espèces anciennes et de leur faire prendre une part un peu plus importante dans l'alimentation. Ouais.
Mab nous dit « Voilà 15 ans que je multiplie pour ma pépinière des plantes, des arbres, des arbustes fruitiers de type sauvage, des plantes indigènes des 5 continents qui vont renforcer la diversité génétique des jardins. »
Oui, alors sur les arbres fruitiers, d'ailleurs, on en a d'autant plus besoin actuellement parce qu'on n'a pas parlé d'une des grandes menaces qui existe actuellement en France avec le réchauffement climatique. Mais par exemple, sur les fruitiers, on a souvent des épisodes où, avec l'augmentation des températures, la floraison se fait un peu trop tôt et on peut avoir un coup de gel qui arrive. Donc c'est sûr que si on a toujours le même cultivar, eh ben, tous les arbres vont y passer, alors qu'à l'inverse, on a une plus grande diversité, ça nous permet d'en avoir qui vont pouvoir résister comme ça.
Merci Benjamin Novak. Pourquoi les bananes n'ont-elles pas de pépins? C'est aux éditions d'Uno. Merci d'être venu nous en parler.
Merci.
Merci également à Lucie Sarfati pour la préparation de ce dossier et Jérôme Boulet qui réalisait cette émission.